Parlons sport, un sujet, un thème, une discussion.
Au jour où sort cet épisode, nous sommes le dimanche 26 décembre. Si vous avez été sage et que vous avez fait assez de sport, le Père Noël est très certainement passé déposer des petits cadeaux au pied de votre sapin. Dans la nuit du 24 au 25 décembre, le Père Noël doit se rendre dans environ 284 millions de maisons et doit donc se déplacer à plus de 3641 km par seconde, de quoi rendre jaloux les pilotes de Formule 1. Mais si sa veste et son traîneau sont rouges, c'est notamment grâce à Coca-Cola, son sponsor officiel depuis les années 1930. L'entreprise Coca-Cola n'a pas investi que dans le Père Noël, elle est grandement impliquée dans le domaine sportif, et c'est ce que je vous propose de comprendre dans cet épisode de Parlons Sport.
Parlons Sport, un sujet, un thème, une discussion.
L'histoire de la rencontre entre Coca-Cola et le sport remonte au siècle dernier, puisque le premier événement à avoir été sponsorisé par la marque et la 9e Olympiade de l'ère moderne, organisée en 1928 à Amsterdam. Milkes avait alors fait le déplacement à bord du bateau de la délégation américaine et les bouteilles avaient été vendues dans les kiosques situés autour du stade olympique. Des affichettes personnalisées créées par un étudiant américain en art avaient également été placées au-dessus des entrées du stade, mais aucune autre publicité ou matériel publicitaire n'avait été mis en place. Depuis, l'entreprise a soutenu chacune des éditions, été comme hiver, ce qui fait de Coca-Cola le plus ancien partenaire du mouvement olympique. Le contrat s'étend pour le moment jusqu'en 2032, dont l'édition aura lieu à Brisbane en Australie, soit à minima une collaboration de 104 ans, et rien ne dit qu'elle ne va pas continuer. Certaines éditions sont d'ailleurs particulièrement intéressantes à analyser. C'est le cas de l'édition de 1932, organisée à Los Angeles. Seulement 4 ans après leur première apparition, la marque avait déjà grandement intégré le paysage olympique en proposant un archiveur de records. Il s'agissait d'un objet en forme de roue qu'il était possible de tourner afin de choisir une des 18 épreuves du programme qui affichait alors le record olympique, le record du monde, le vainqueur de l'édition de 1928, ainsi que le lieu et la date de l'épreuve de l'édition de 1932. On pouvait également lire dessus « Buvez Coca-Cola, vous ne pouvez pas battre la pause qui rafraîchit ». Lors de l'événement, des bouteilles de la boisson ont également été servies aux 105 000 spectateurs et plus de 3 millions de découpages de dessins de sport avaient été distribués aux enfants de tout le pays, avec au dos des records olympiques. Organisée presque à domicile, la marque avait mis en place une grosse stratégie de sponsoring. En revanche, ce n'est rien à côté de l'édition de 1996 organisée à Atlanta, maison mère de Coca-Cola. Pour remettre l'événement dans son contexte, il s'agissait de la 25e Olympiade, soit les Jeux Olympiques du centenaire, 100 ans après la première édition à Athènes. La ville grecque était d'ailleurs candidate à cette Olympiade, mais elle a perdu le vote final face à la ville américaine. Cela avait fait beaucoup polémique à l'époque en dénonçant le fait que le CIO avait privilégié l'argent au symbolique. En effet, l'investissement de Coca-Cola a débuté dès la candidature en étant l'un des principaux contributeurs des 5 millions de dollars que la Chambre de l'État de Géorgie avait constitué pour appuyer la candidature d'Atlanta. Mais ce n'est rien à côté des 250 millions de dollars déboursés en publicité et en promotion lors de l'événement. 60 millions pour 100 spots télévisés, 20 millions pour un parc olympique Coca-Cola, 20 autres millions pour être l'unique décideur et représentant lors du parcours de la torche, et plusieurs autres millions pour d'autres actions promotionnelles. Mais l'investissement majeur et le plus impactant a été les 80 millions de dollars versés afin de mettre Atlanta aux couleurs rouge et blanc de la marque et d'être le fournisseur exclusif en boisson, autre que l'eau, dans les enceintes olympiques. Oui, aucune autre boisson que le Coca-Cola, hormis l'eau, n'était autorisée dans les stades et les salles olympiques. Coca-Cola a bien évidemment été partenaire des JO de Tokyo cette année, elle le sera à Pékin en février, et la marque américaine a déjà annoncé des investissements à hauteur d'1 milliard d'euros en Europe en vue des JO de Paris 2024 afin de renforcer ses capacités de production et de distribution en France et sur tout le continent. Mais Coca-Cola et le sport, ce n'est pas seulement les Jeux Olympiques, c'est également la Coupe du Monde de football, mais leur stratégie d'investissement est presque similaire. L'histoire entre la marque et la FIFA, la Fédération Internationale de Football, remonte à 1950, date à laquelle ils ont fait leur première apparition sur les panneaux publicitaires. Ils se sont associés en 1974 et Coca-Cola est devenu sponsor officiel de la Coupe du Monde à partir de l'édition 1978 organisée en Argentine. Depuis, Coca-Cola a mené de nombreuses actions afin de mettre la marque en avant, notamment en 2006 en devenant le partenaire exclusif de la tournée du trophée, c'est un voyage de la coupe dans de nombreuses villes du monde entier en amont de l'événement, afin de permettre aux fans d'approcher le trophée remis aux champions. Souvenez-vous également de 2010 et de la Coupe du Monde en Afrique du Sud, la fameuse musique Waving Flag de Knan, qui était la musique de célébration commandée par Coca-Cola et qui nous a tous fait chanter et danser, tout comme Colors de Jason Derulo pour la Coupe du Monde 2018. Coca-Cola est aussi en collaboration avec Panini, la maison d'édition italienne célèbre pour ses livres avec des vignettes à collectionner, avec tous les 4 ans, une édition spéciale Coupe du Monde parrainée par la marque américaine. Coca-Cola possède également le naming du classement des nations, hommes et femmes. Car oui, Coca-Cola ne couvre pas que les événements masculins, mais l'ensemble des compétitions organisées par la FIFA, que ce soit des compétitions masculines ou féminines, seniors, moins de 20 ans et moins de 17 ans, et qu'elles soient sur herbe, sur sable ou en salle. Le marketing de la marque n'est pas exclusivement tourné vers le sport professionnel, puisqu'ils sont aussi impliqués dans le sport pour tous, qui représentent d'ailleurs chaque année depuis 1996 environ 60% de leur budget consacré au sport. Rien qu'en France, plusieurs programmes ont été marquants. Collectif Foot en 1999, qui a permis à 11 000 clubs amateurs d'acquérir les équipements sportifs nécessaires. En 2006, On parle tous football, qui a été une campagne mettant en avant le respect de l'arbitre et de l'adversaire avec la mise en place d'un protocole destiné aux 12-15 ans. Et enfin, en 2009 a été lancé Le Sport Samedi, qui a été renouvelé pendant plusieurs années. Durant une journée, un samedi, des éducateurs sportifs faisaient découvrir aux 12-17 ans une activité physique afin de les sensibiliser à la nécessité d'adopter un mode de vie actif afin de lutter contre la sédentarité, mais aussi afin de créer du lien social et découvrir des valeurs telles que l'effort et l'esprit d'équipe et les vertus citoyennes comme le respect, la tolérance et la solidarité. D'après les chiffres du CNOSF, le Comité National Olympique et Sportif Français, en 2014, 800 villes y ont participé, ce qui a permis d'organiser 6150 sessions au travers de l'Hexagone qui ont bénéficié à plus d'un million de jeunes avec 6 activités au programme. Le football, le street tennis, le scratch ball, le hockey, le street golf et le tir à l'arc. Pour terminer sur leur politique de marketing sportif, j'aimerais revenir sur une phrase inscrite sur leur site internet. Le sport a un rôle majeur à jouer dans la politique de sponsoring de Coca-Cola. Nous soutenons les organismes qui prônent l'activité physique au cœur des communautés dans lesquelles nous exerçons nos activités. En effet, le sport représente 10% de leur investissement marketing au niveau global et international. Pourtant, lorsque l'on pense à Coca-Cola, la première chose qui vient en tête est une bouteille d'une boisson gazeuse et sucrée, plutôt associée au fast-food et à la malbouffe, et assez éloignée de l'image du sportif. Cette idée a fortement été renforcée par Cristiano Ronaldo lors du dernier Euro de football, lorsqu'en s'installant pour la conférence de presse d'avant-match face à la Hongrie, il a mis hors du cadre les deux bouteilles de Coca-Cola et a recentré les deux bouteilles d'eau. Alors, l'intérêt de boire du Coca-Cola dans le sport, j'en parlerai dans quelques minutes lors de la dernière partie de cet épisode, mais il est vrai que ce n'est pas la boisson la plus saine. Pour atteindre les sportifs, l'entreprise Coca-Cola a donc proposé des boissons spécialisées et adaptées aux sportifs. Déjà, il faut savoir que Powerade a été créé par The Coca-Cola Company en 1988. Mais plus récemment, en juillet 2021, ils ont racheté la boisson Body Armor pour 5,6 milliards de dollars, dont ils possédaient déjà 15% des parts depuis 2018. Avec ce rachat, l'ambition de The Coca-Cola Company est de passer en tête du marché des boissons énergétiques, actuellement occupée par Gatorade, une filiale du groupe Pepsi. Pourtant, sur les compétitions sportives, et notamment sur les courses d'endurance, on retrouve sur les ravitaillements la boisson de la marque. Avec 10,6 g de sucre pour 100 ml, cela représente un cinquième des recommandations des apports journaliers nutritionnels, ce qui est assez élevé, mais qui peut être bénéfique afin d'apporter de l'énergie à l'organisme lors des courses. Il est tout de même conseillé de le diluer afin d'éviter l'hypoglycémie réactionnelle, qui correspond à une chute de la concentration de sucre dans le sang après avoir soudainement augmenté du fait de l'insuline qui voit cette arrivée comme un moyen de faire des réserves et qui va donc stocker l'ensemble des apports. La boisson comporte également de la caféine, un stimulant bien connu pour apporter de l'énergie et élever l'attention ainsi que la réactivité. Une étude réalisée par François Gazano et publiée sur l'Institut du sport du Québec s'est intéressée à l'effet de la consommation de Coca-Cola lors d'un effort en sport d'endurance. Elle a alors révélé que l'ingestion conventionnelle de caféine, soit 6 mg par kilo, avant ou pendant un effort de 120 minutes, permet d'améliorer la performance lors d'un effort maximal dans les 30 minutes qui suivent l'ingestion. Néanmoins, le Coca-Cola, qui ne comporte quant à lui que 1,3 mg de caféine par kilo, permet d'obtenir les mêmes effets bénéfiques sur la performance. Ils ont donc constaté que l'effet ergogène de la caféine semble se manifester à des dosages inférieurs à ceux utilisés auparavant, et donc que le Coca-Cola pouvait être une boisson avec un dosage suffisant. Néanmoins, l'étude comporte des limites qu'elle a elle-même précisées. Elle ne permet pas d'identifier les mécanismes explicatifs de l'amélioration des performances constatées par l'ingestion des boissons caféinées. Elle ne permet pas non plus de déterminer si les améliorations de la performance sont le fruit de l'effet de la caféine sur les muscles sollicités à l'effort, sur celui de son action sur le système nerveux central, ou s'il s'agissait d'une modification des acides gras libres. Elle a également notifié que l'utilisation unique du Coca-Cola était une limite de leur étude. Car oui, l'amélioration à l'identique des performances, malgré une moindre dose, pourrait être provoquée par d'autres facteurs. Par exemple, le sucre rapide active le système de récompense du cerveau, ce qui peut provoquer un boost psychologique qui va redonner un second souffle au coureur. Ce n'est pas non plus seulement lié à l'apport calorique, puisque des études ont montré que l'ingestion et le rinçage de bouche activaient les mêmes zones cérébrales et qu'il n'y avait donc aucune différence entre les deux. Le Coca-Cola peut donc être utile à la pratique sportive, que ce soit énergétiquement ou mentalement. Mais comme tout le reste, avant de l'emporter en compétition, il faut le tester à l'entraînement pour savoir si votre organisme l'accepte correctement afin qu'il vous soit bénéfique et non délétère. En tout cas, que ce soit dans la pratique ou dans le marketing, The Coca-Cola Company est pleinement intégrée au domaine sportif et en vue de sa politique, elle n'est pas prête à le quitter. Le pilote Renault Mobile, qui est le Père Noël, tient donc encore son sponsor pour de nombreuses années, de quoi encore nous gâter. Voilà, c'est tout pour cet épisode de Parlons Sport. Merci à ceux qui sont arrivés jusqu'au bout et qui ont écouté en intégralité cet épisode spécial Noël sur l'implication de Coca-Cola dans le sport. Si l'épisode vous a plu et que vous avez appris des choses, n'hésitez pas à le partager, à me dire ce que vous en avez pensé et à mettre un commentaire si vous êtes sur Apple Podcast. C'est ce qui me permet de progresser et de me rendre visible. Je rappelle que je publie chaque soir Sport Actu, un podcast sur les actualités sportives de la journée. N'hésitez pas à aussi me suivre sur Instagram, @sport.kylian-tanguy. J'y publie des posts quotidiens sur le sport, je partage ma passion et j'entre en contact avec vous. Merci à tous et à bientôt sur Sport Podcast.